Vous êtes sur RTL.
On refait la télé.
On refait la télé.
Présenté par Jade et Eric Dussard
sur RTL.
Bonjour à tous, bonjour Jade.
Bonjour Eric, bonjour tout le monde.
Bon bah écoutez, ça se passe pas si mal finalement ce petit été ensemble RTL.
Regardez, il est sympa ce bureau de la direction des programmes. On s'est installé dedans et oui. Il est très grand.
Oui, alors par contre, il faudra penser à enlever votre piscine gonflable avant lundi parce qu'ils reviennent tous
ah
là.
Oui, zut.
Ah bah oui, c'est déjà la rentrée. Hein. Pour nous aussi d'ailleurs, dernier collector de Refait la télé. Mais attention, on vous a gardé le meilleur pour la fin.
Une spéciale jeu aujourd'hui avec des rois du genre, que ce soit à la télé avec Monsieur Love Story, Benjamin Castaldi, mais aussi à la radio avec l'une des grandes voix d'RTL, Fabrice, qui était sorti de sa retraite suisse pour venir nous voir.
Ça, ce sera tout à l'heure, mais d'abord, celle qui a déjà fait sa rentrée il y a quelques jours, en reprenant la présentation du jeu de Nagui, Tout le monde veut prendre sa place, c'est Laurence Boccolini.
L'année dernière, elle présentait Mot de passe, du coup, on lui avait fait une interview Mot de passe.
Elle a beaucoup bu cet été.
Beaucoup d'eau. Des mots en guise d'indice pour retrouver de grands moments qu'elle a vécu.
Jusqu'à 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Eric Dussard.
Premier mot à faire deviner, Jade.
Chanteur.
Goldman.
Bisous.
Carlos. RTL. Chanteur, bisous, RTL.
Ça vous concerne.
Ouais, oui,
ça me concerne,
oui,
moi.
Ça vous concerne.
Elton John.
Bravo.
Voilà. Oh, disons que je sais pas pourquoi j'ai trouvé ça tout de suite. Je suis étonnée moi-même par ma fulgurance.
Parce qu'il paraît que vous avez interviewé pour RTL Elton John alors que vous n'aviez que 15 ans.
Oui, en fait, Jean-Bernard Ribé à l'époque présentait Poste Restante. Il m'a invité parce que j'avais envoyé plein de cartes postales, c'est l'histoire, tout ça, on la connaît.
53 quand même.
53 et les 53 étaient prises, donc je suis venue comme plein de gens dans le grand studio et en fait, pas du tout. Il voulait que je fasse l'émission avec lui et il m'a fait un bisou.
Mais non.
Non, enfin, il m'a fait un smack.
Oui. Et après, il a écrit The One.
Oui, it's no sacrifice.
Mais personne ne le sait.
Little Dancer,
tous ces tubes, grâce à vous.
C'est pour moi.
C'est cette rencontre.
Moi,
voilà. Et ça, on ne le sait pas.
Allez, autre mot à deviner. On reprend cette partie de mot de passe.
Elle devrait bien jouer.
Mais
au revoir.
Bonjour.
Maillon.
Correct.
Maillon.
Maillon faible.
Bah quand même, oui, vous connaissez un peu cette émission.
Non, mais je cherche un mot.
C'est un jeu culte que vous avez animé sur TF1.
Oui, c'est vrai. Oui. Aussi.
Et c'est comme le bon vin, on ne s'en lasse pas. Ça vieillit bien.
Quelle est la femelle du lièvre?
La levrette.
Mauvaise réponse. Qui fut maire de Paris de 77 à 95?
Louis XVI.
Quel oiseau crie Léon en faisant la roue?
Nathalie, quel saint irlandais est fêté le 17 mars?
Atchoum.
Si les abeilles volent en essaim, en quoi se regroupent les sardines?
En boîte.
Quel leader étudiant de mai 68 était surnommé Danny le Rouge?
Danny Briand.
Ah bah oui, bien sûr.
Ah bah oui. Très politisé, Danny Briand.
Très politisé. Mais comment vous faisiez, Laurence Boccolini, pour rester dans votre personnage de méchante et ne pas éclater de rire quand vous entendiez ça?
En fait, c'était tellement compliqué à faire ce jeu que j'étais vraiment dans le jeu, donc ça ne me faisait pas rire sur le coup. Mais après, oui. Après l'émission, oui, j'y repensais, mais sur le coup, non, pas tellement, parce qu'il fallait que je passe au candidat suivant.
Mais c'est pour ça que vous aimez tant animer des jeux, parce que c'est un exercice, on est toujours sur le fil, c'est assez compliqué, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Hein.
Les animateurs de jeux, c'est un exercice tout à fait différent. C'est un peu bébête ce que je raconte, mais être vraiment dans le jeu et aimer ça, c'est une rencontre avec des candidats, une rencontre avec des gens que vous ne connaissez pas.
Que vous ne voyez jamais, vous, avant l'entrée en plateau.
Moi, je ne les vois pas, je n'ai pas de fiches, j'ai rien, je ne sais pas ce qu'ils font. C'est eux qui me le disent. Voilà, je les découvre avec vous. Et donc, c'était un exercice que moi j'adore, mais on n'est pas tous forcément très doués pour faire ça.
Il faut de la répartie. Ouais, il faut savoir s'adapter.
Un peu.
Et alors, jouer à un jeu, c'est encore plus compliqué. La preuve, on reprend cette partie de mot de passe.
Allez, on
va. J'ai pas été très bonne.
Télé.
Argent.
Monnaie d'Europe.
Bravo.
J'allais dire Trump n'a pas eu tant que ça, avec vraiment beaucoup d'argent là.
Alors justement, maintenant il y a prescription, Laurence Boccolini. Est-ce que c'était de vrais billets?
Je peux pas le dire.
Qui étaient sur le plateau de Monnaie d'Europe?
C'est possible.
Comment ça?
Sinon il n'y aurait pas eu de garde du corps.
Ouais, mais est-ce que c'était de vrais gardes du corps?
Ah, c'était des vrais gardes du corps.
C'est vrai?
Oui. Alors ils étaient tellement. Comment dire? Ils avaient une telle réputation que quand ils allaient dans leur autre job, parce qu'ils faisaient pas que ça, ils étaient gardes du corps en boîte de nuit, en machin, un truc comme ça, que les gens disaient. C'est le quart du corps de Laurence Boccolini. C'était très drôle.
Mais les billets même, plusieurs années après, vous n'avez toujours pas le droit de dire si c'était vrai ou pas.
Non, c'était pas des vrais billets, non, bien sûr que non. Mais ça ressemblait vraiment à des vrais billets. Hein. Donc les liasses étaient vraiment pesées, etc. Mais l'image que vous aviez de cette pyramide d'argent, c'était frappant, quoi. C'est-à-dire quand ça tombait d'un coup, même si dans votre tête, c'est pas des vrais billets, c'est quand même la somme que vous ne gagniez pas.
Et ça avait fait polémique à l'époque, parce que c'était l'une des premières fois qu'on montrait l'argent qu'on offrait.
Moi, j'ai fait polémique deux fois. Il y avait une première fois, une méchante grosse à la télé, il faut le dire, parce que j'en ai pris plein la tête sur mon physique, la grossophobie, j'ai bien morflé. Et un jeu d'argent. Et à chaque fois, on m'a dit, ne fais surtout pas ça, ça va se planter, ça restera pas plus de deux jours. Donc on a fait 7 ans, c'était plutôt pas mal. Mais c'est vrai que l'argent, on m'avait dit, personne n'acceptera. Et en fait, tout le monde s'en foutait.
Et tout le monde voulait le gagner.
Tout le monde voulait le gagner.
Moi, ce que je préférais, c'était leur projet, s'ils gagnaient le jackpot.
Ah oui. Le projet était 250 000 euros.
Quitter ma femme et refaire ma vie aux États-Unis.
Qu'est-ce que vous allez faire avec les 250 000 euros ?
Une croisière autour du monde, peut-être en dos de chameau.
Une croisière en dos de chameau ?
Oui, pourquoi pas ?
Les 250 000 euros sont là. Qu'allez-vous en faire ?
Alors, finir les travaux de la maison. Et s'il reste un petit peu d'argent, on va faire une petite liposuction.
Qu'est-ce que vous allez faire avec les 250 000 euros ?
Je vais m'acheter une paire de seins.
Vous allez m'acheter une paire de seins.
Pour 250 000 euros, je pense que tu as quelque chose de bien.
On a eu beaucoup.
Beaucoup de chirurgie esthétique.
Beaucoup de chirurgie esthétique. Beaucoup, je me fais refaire les fesses, je me fais refaire les seins.
Les gens ne s'aiment pas.
Je quitte ma femme. Il plaisantait, la femme était là, mais beaucoup de voyages et beaucoup l'Australie. Me demandez pas pourquoi, ils voulaient tous aller en Australie.
C'était plus loin possible.
Je sais pas, pas le truc qui vous vient à l'esprit en premier.
Avec cette somme, moi j'aurais bien payé quelques cours d'histoire à cette candidate-là.
Deux catégories. Che Guevara, Banque de France.
Che Guevara, le chanteur. C'est le chanteur Che Guevara? Ah, tu connais?
Ben ouais, c'est la tête, là, la figure.
Quelle tête?
La figure, là, le Che de Guevara.
Quelle tête?
Le Che de Guevara. Il y avait la chanson, là.
Je chante quoi?
Je vois sa tête.
Oui, mais qu'est-ce qu'il chante?
Je sais pas.
Elle avait confondu, en fait, avec la chanson Che Guevara de Nathalie Cardone. C'est la tête. Le Che de Guevara.
On ne sait pas s'ils chantaient bien, mais enfin.
On n'a jamais su pour finir.
Ah, ils étaient mignons, mes candidats. Ouais. Ils étaient adorables.
Allez, Laurence, prochain mot à deviner.
Boucle.
Boucle, oreille.
Information.
Formation, journaliste.
Continue.
Continue, information continue. LCI. Non, j'en sais rien.
Pas loin.
BFM TV.
Voilà.
Il paraît que vous regardez les infos en boucle toute la journée.
C'est faux. Mais non, on me pose la question si vous regardez les infos. J'ai j'ai pas besoin parce que de toute façon c'est en boucle.
Vous répondez ça en interview et ça devient accroche à l'info.
J'ai répondu des choses en interview pour rigoler. C'est devenu ça. Les gens titraient. J'ai eu des titres. Des fois, maintenant je m'amuse à dire des choses complètement fausses pour ça.
Pour que ça sorte.
Quoi, voilà.
Quel buzz. Oui. BFM TV, qui doit confinement oblige, faire de plus en plus d'interviews par visioconférence. Alors, c'est pas toujours au point niveau technique.
Mais on n'a absolument aucun recul pour l'instant. On connaît mieux la manière dont ce virus se réplique.
Je crois que vous avez des messages par ailleurs qui arrivent en direct au moment où on se parle.
C'est Skype. Donc, je disais, on commence à comprendre mieux.
On va revenir vers vous dans quelques instants en attendant de gérer ces problèmes techniques.
On aurait dit qu'elle était dans des machines à souffle.
Non, mais ça, c'est tous les gens qui vous voient à la télévision et qui vous écoutent à la télé.
Qui envoient le message.
Mais arrête,
oui, je le sais.
Avec le truc qui apparaît en permanence. Mais c'est horrible.
Mais c'est ça, c'est des gens qui les créent pour dire je te vois en ce moment.
Arrêtez de me dire que vous voyez sa coupe.
Bravo quand même à Laurence Boccolini. Vous êtes aussi forte comme candidate ou presque que comme présentatrice de mot de passe. Vous savez ce que vous avez gagné, Laurence?
Ah, j'ai gagné un truc.
Une surprise.
Oui.
Une très belle surprise.
Allons-y.
Vous voulez savoir laquelle ?
Oui.
Eh bien, vous allez faire comme tout le monde, vous allez attendre 2 minutes. Vous allez patienter. Le temps d'une courte pause. 11h30, midi et demi, on fait la télé sur RTL avec Laurence Boccolini. À tout de suite.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Avec Jade et Eric Dussard.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Avec Jade et Eric Dussard.
On connaît tous Laurence Boccolini, Eric.
Oui,
vous savez, l'animatrice télé, mais on sait moins. Si. On sait moins qu'elle est aussi une passionnée de musique. Donc évidemment, son premier choix de souvenir télé s'était porté sur une émission culte des années 80. Tout le monde se souvient encore de ce générique de légende.
Ce serait pas le replay de l'invité par hasard ?
Peut-être bien.
Le replay de l'invité.
1, 2, 3, 4!
Elle danse en une fraction de seconde.
Laurence Boccolini, on savait qu'on vous ferait plaisir avec le générique de cette émission culte des années 80 qui s'appelait
Les Enfants du Rock.
Absolument.
Créé par Pierre Lescure, ouais. Qui a été présenté par de nombreux animateurs devenus par la suite des stars de la télé. Quelques noms.
Il y a Manœuvre, il y avait plein de gens.
Antoine Decaune.
Ah oui, Decaune, il y a plein de gens qui sont passés.
Bien sûr, ouais, Groucho super. Et Chico hein, qui ont présenté l'émission. Mais oui.
Incroyable. Okay, c'est vrai, oui. Je m'en souvenais plus, Groucho et Chico. Oui, oui.
Alors, dans la liste de vos meilleurs souvenirs télé, Laurence, on trouve une animatrice qui, elle aussi, était très, comment dire, yéyé rock'n'roll, on va dire, c'est Danielle Gilbert.
Ouais.
Vous étiez fan de son émission Midi Première.
Alors, pour moi, c'est ma Madeleine de Proust, Danielle. C'était une époque où cette femme, elle présentait une émission en direct avec des invités internationaux, avec des invités français, avec des invités pas drôles. Elle trouvait toujours un truc à dire. Cette femme, elle a fait un boulot. Aujourd'hui, on ne fait plus quoi.
Elle tenait l'émission avec des contraintes qui étaient bien plus importantes qu'aujourd'hui.
Il y avait des manifs, c'était en direct, elle faisait des machins, il y avait des groupes, elle parlait anglais.
Je pense, Laurence, que c'est pour elle qu'on a inventé l'expression les aléas du direct.
C'est ça.
Grand moment notamment, cette émission à Argelès-sur-Mer.
Argelès-sur-Mer.
Claude François était en retard.
Il a fallu qu'elle meuble.
Et le réalisateur, il n'était pas là non plus.
Il se passe aujourd'hui dans l'émission ce qui ne s'est encore jamais passé. C'est-à-dire que Jacques-Pierre, le réalisateur, n'est pas encore dans le car. Claude est quelque part dans la foule. Est-ce que nous allons le retrouver? Ça, je l'espère en tout cas. Je crois qu'on est en train de nous parler, mais nous n'entendons rien. Nous avons un ronflement sur le haut-parleur, là, derrière les personnes.
Tout.
Ça y est, on a plus de ronflement, mais on n'a plus rien du tout. Alors j'aimerais... Oui? Ah, je l'emmène là-bas.
J'adore.
Ah bon, très bien.
Ah, il faisait tout à vue. Ça, c'est le réalisateur qui donnait ses consignes dans les haut-parleurs. Il n'y avait pas d'oreillette.
Il n'y avait pas d'oreillette, il n'y avait rien. Claude François, lui, ils n'arrivaient même pas à avancer avec les Claudettes qui n'arrivaient pas. Mais il y avait, je sais plus si c'est Frédéric François ou un autre chanteur qui est arrivé, ou François Valéry qui dansait comme ça, et les filles l'agrippaient, elles lui ont arraché l'épaulette de son costume, et il y avait la ouette. Vous savez, la ouette du rembourrage, et il continue à chanter avec la ouette qui sortait.
Alors, vous nous avez aussi demandé un extrait de Denise Fabre, le magicien Garcimore, dont le français approximatif entraînait parfois de sacrés quiproquos. Et en voici un beau. Il demandait à Denise de toucher, et elle avait compris qu'elle devait tousser.
Oui, bah oui.
Mais qu'est-ce qu'on vient encore faire?
Je voulais vous faire un petit tour avec le foulard de contraster. Hein? Vous le voyez, les nœuds?
Ah oui, très, tout à fait bien.
Alors maintenant, il faut que vous toussez. Là. Mais bien. Là, de contraster. Là. Mais il ne comprend pas le français. Touche là, touche.
Je n'avais pas compris, je voulais dire toucher.
Comment ça? 43 ans plus tard, on se dit qu'il y avait quand même une joie de vivre et une légèreté à la télévision
oui,
à l'époque.
Que, alors Denise aussi, Denise, c'était les après-midi, elle tenait tous les après-midi, c'était du direct, il y avait Garcimore qui leur kikinait, elle détestait les souris de Garcimore, les hamsters, donc tic-tic et tac-tac, je ne sais pas quoi, elle hurlait à chaque fois, elle avait des fous rires, et les techniciens étaient épouvantables avec elle, parce qu'ils savaient qu'elle partait au quart de tour, et ils lui faisaient les pires horreurs.
Hors champ.
Et elle était d'un naturel. Et maman disait toujours, oh, elle est bien habillée. C'était important.
C'était une référence.
Il y avait trois chaînes. Hein.
Ah, bien sûr. Ouais.
Jusqu'à 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussart.
Comme.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussart.
En fait, Jade, ce qu'on vit cet été à RTL, c'est un peu comme Love Story. Nous aussi, on est enfermés, coupés du monde.
C'est vrai, on aurait dû prendre un studio avec une fenêtre. Faudra y penser pour l'an prochain.
Ah oui, mais c'est plus cher, faut accroître le budget. Love Story qui fête ses 20 ans cette année. Et pour l'occasion, on avait reçu son présentateur, Benjamin Castaldi, qui venait tout juste d'écrire un livre sur Yves Montand et Simone Signoret. Et alors, il s'était livré avec encore plus de sincérité que les lofters dans le fameux confessionnal.
Argent, magouille de la télé-réalité, son rapport à la notoriété, Benjamin Castaldi, comme vous ne l'avez jamais entendu, c'est maintenant.
Jusqu'à 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussart.
Vous évoquez aussi les dernières années de votre grand-mère, sa maladie, quand des fouilles merdes, pour vous citer, planquent devant la maison d'Auteuil.
Oui, ouais, j'aurais pas dû dire des fouilles merdes, mais... Non, mais c'est vrai, en même temps, ils cherchaient la photo... Le moment où elle allait sortir les pieds devant, qu'ils n'ont pas eu d'ailleurs. Ou peut-être qu'ils ont eu, je ne sais plus.
Vous êtes ado, c'est votre premier contact avec les paparazzi, Benjamin Castaldi. Pas le dernier, on va dire.
Non,
parce que,
non. Même bien les paparazzi.
Vous non plus, les paparazzi, ils ne vous ont pas épargné. Hein. Ils sont parfois allés très loin avec vous.
Moi, je les ai eu aux fesses très longtemps. Mais en fait, maintenant, avec le recul, je pense que j'ai fait une bêtise. C'est que je devais être mal conseillé à l'époque. Parce que De toute façon, aujourd'hui, on partage tout. Alors, moi, ça, vous voyez bien, alors, moi ou les autres, même les grandes stars, elles sont sur les réseaux, elles vous montrent leurs chaussures qu'elles viennent d'acheter, le pied de leur fils. Bon. Donc, c'est totalement hypocrite, tout ça. On s'est fait tout un monde, ouais, ils viennent me voler ma vie, mais finalement, aujourd'hui, maintenant, on met tous notre vie du matin au soir sur les réseaux.
Vous voulez dire qu'aujourd'hui, vous n'en avez plus rien à faire si vous n'êtes pas paradisé?
Ouais, je m'en fous, a priori. D'abord, c'est la règle du jeu. Et tant qu'on ne vous montre pas dans une situation. Alors, si, quand c'est dans une situation un peu. Moi, j'ai eu des paparazzas qui m'ont fait du mal parce que elles insinuaient quelque chose qui était sale. Quand moi, j'ai eu une de Voici, je crois, où ils ont fait. Je suis en train de porter mon fils par les. Enzo, je le tiens par le pied, comme ça. Et avant, ils prennent une photo de moi en train de boire un verre de rosé. Ils insinuent que je suis complètement bourré et que je suis en train de secouer mon fils par les pieds. Bon. Ça fait mal.
Votre réaction à ce moment-là, parce que vous êtes un Castaldi, donc assez sanguin.
J'ai envie de tout casser, là. Là, j'ai envie de tout casser. J'ai dû casser quelque chose, d'ailleurs.
Donc, ça veut dire quand même qu'au quotidien, on doit faire gaffe.
Non, mais moi, c'est vrai que je faisais gaffe. J'allais pas en boîte de nuit. Dès qu'il y avait les téléphones portables, c'est un peu une plaie. J'étais méfiant. Une fois, j'ai fait le con. J'étais en forme, quoi. J'ai fini torse nu sur une piste de danse. Évidemment, la photo est sortie. Bon, c'est malheureux. Il y a des choses qu'on ne fait pas, oui. Mais après, il ne faut pas se plaindre. Quoi. Voilà.
Je vous ai tant aimé aux éditions du Rocher. Un bel hommage pour ces deux légendes du cinéma qui auraient eu 100 ans cette année. On va maintenant parler d'un autre anniversaire qui vous concerne directement, ouais. Benjamin Castaldi. En avril, ce sera les 20 ans de Love Story.
11 célibataires coupés du monde, dans un loft de 225 mètres carrés. Filmé 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros.
6 garçons, 5 filles qui ne se connaissent absolument pas, vont vivre ensemble totalement coupés et isolés du monde extérieur pendant 70 jours, dans une maison qu'on va découvrir maintenant. Alors là, c'est le jardin, la piscine, le poulailler.
Ah, la piscine, on a beaucoup parlé de cette fameuse piscine.
Ah,
hein.
Oui.
Ah, ça.
26 avril 2001, M6 invente donc le confinement avant l'heure avec Love Story. 11 célibataires coupés du monde, vous coupez du monde, vous ne l'êtes pas du tout. Benjamin Castaldi, vous êtes même en première ligne. Cette émission, on l'a dit, elle déchaîne les passions. Vous ne faites pas que des amis à l'époque, hein. Vous recevez même des menaces de mort.
Oh, genre, c'est, on a oublié, devant M6, les gens venaient déverser leurs poubelles quand même. On a oublié ça. Ils venaient déverser leurs poubelles devant M6. Non, ça a été un déferlement. Je crois que la revue de presse du Love, c'est elle fait 15 mètres de haut.
Donc, le nombre d'articles publiés, c'était hallucinant.
Mais on a fait la une de tout. On a fait la une, mais c'était au-delà des canards de télé.
Vous avez dû prendre des gardes du corps à un moment donné.
Bah, quand vous recevez une balle dans une enveloppe, des capotes usagées, on sait où t'habites, on connaît tes itinéraires, on va te buter. Enfin, au bout d'un moment, faut faire attention quand même.
À l'époque, vous étiez au camp des magouilles de la production ou pas?
Je sais pas s'il y a eu des magouilles.
Vous l'avez dit, hein.
Non, mais
on arrêtait de comptabiliser les votes quand on avait le résultat souhaité. Ça ressemble un peu à une magouille, Benjamin Castaldi.
Ça, c'est Loft 2. C'est Loft 2, effectivement. Le Loft 2, on s'est pris les pieds dans le tapis, mais ça a été raté complètement, d'ailleurs. Mais.
Le principe, c'était quoi? C'était de geler les votes, en fait, quand on avait le résultat souhaité?
La carambouille qu'on a faite, c'était que on voulait pas perdre des candidats. Et il y avait notamment une candidate qui était, je crois, la foraine. Et on a donc lancé des votes. Et quand elle est passée devant à 21h12, on a coupé les votes. Et moi, je l'ai appris parce que j'ai un copain à moi qui m'appelle, qui me dit « Bah, vous avez coupé les votes, vous êtes con ou quoi ?» Je dis « On a coupé les votes. » Et en fait, ces couillons, au lieu de mettre suite à un trop gros nombre d'appels, veuillez recommencer, il dit les votes sont clos.
Ça a été la même chose après avec Secret Story ou pas?
Non, c'était plus possible. Parce que justement, après, sur Secret Story, les votes étaient ouverts par l'huissier et fermés par l'huissier. Après, on va pas se mentir, c'est très facile de faire un montage. Si y a un candidat qui vous dérange, il disparaît toute la semaine des quotidiennes. Vous verrez qu'à l'arrivée,
il n'est pas très favorisé.
Vous verrez que le vote, il sera. tu vois.
Donc vous reconnaissez quand même que ça est un peu cousu de fil blanc.
On s'est foutu un peu de la gueule du monde, ouais.
Ah, vous le reconnaissez?
Oui, oui. Sur Secret, de temps en temps, oui.
Alors, 20 ans après le lancement de Love Story, que nous reste-t-il de cette émission? Eh bien, ces magnifiques phrases.
THYM, c'est quoi du
C'est du teint.
Mais carrément. Parce que j'imagine par rapport à ta famille,
que tu les emmerdes déjà les gens.
Ah oui,
mais avec un grand A. Mais avec un grand A.
T'es ingénu. J'ai ingénu, il y a génie. Il y a génie. Et un, c'est le contraire, non? Et après, ingénieur. Ouais, après, il y a le mot dans ingénieur.
Pour moi, c'est le contraire. Pour moi, c'est être intelligent. Mais peut-être que t'as raison, on va regarder dans le dictionnaire.
Le play, là.
Le play, il a parti. Ouais, le play, il a parti. Et le Becherel, lui, il n'a pas venu. Vous voyez,
ça, c'était un festival. Hein.
Alors, on se souvient que les candidats du Loft avaient été très vite starisés. Mais vous, ce qualificatif pour des candidats de télé-réalité, ça vous ulcère? Ça, vous n'aimez pas ça?
Ah bah non, mais c'est déjà le mot star est tellement galvaudé du matin au soir. des mecs qui ont 2 millions de followers, c'est des stars maintenant. Donc, parce qu'ils montent des trucs pour se faire blanchir les dents.
Vous avez un peu créé le monstre, ouais, avec le Loft. Hein. Ouais. Tout le monde veut son quart d'heure de célébrité, c'est un peu ça, les réseaux sociaux.
Oui, c'est ça. Pas, oui, mais c'est être célèbre, c'est pas forcément être star. Une star, pour moi, c'est Sophie Marceau, Belmondo, Jean Dujardin.
Bah, Simone Signoret, Yves Montand, vous en parlez d'ailleurs dans le livre. Je vous cite, hein. Je laisse à mes collègues la faiblesse de croire qu'ils sont des stars, avec leurs voitures très chères, leurs vacances dans des 5 étoiles et leurs bouteilles de champagne. Je suis passé par là. C'était à l'époque où je voulais ressembler à Montand, mais sans l'essentiel.
Oui, bien sûr. Mais oui, mais c'est pas ça, être star. Voilà, c'est pas parce qu'on roule dans une grosse voiture et qu'on a un jet privé et qu'on dépense 200 000 euros la semaine de vacances qu'on est une star.
Comment vous pourriez décrire le Benjamin Castaldi de ces années Loft, puis Secret Story, flambeur, frimeur?
Alors, on m'a pris pour un frimeur. C'est que j'ai tellement été obnubilé par la réussite de Montand et parce que j'avais vu avec lui, que je n'ai eu de cesse que d'essayer de le récupérer. Donc la meilleure façon de récupérer ce que vous avez vu, quand c'est Yves Montand qui roule en Ferrari, c'est d'acheter une Ferrari. Et en fait, je me suis rendu compte un peu tard que c'était pas ça qui vous rendait heureux, parce qu'en fait, je me souviens très bien, je suis arrivé une fois chez ma mère en Ferrari, en me disant « ouais, elle va être super fière de son fils parce qu'il arrive en Ferrari ». J'ai pris un vent quand même.
Et à cette époque-là, vous gagnez beaucoup d'argent aussi, il faut le dire. J'ai lu entre 1 et 2 millions d'euros par an, c'est vrai ?
Ouais, entre 1 et 2 millions d'euros par an. Mais ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré 2-3 ans, ouais.
C'était l'époque Secret Story, ça?
C'est l'époque où j'ai signé avec TF1. J'ai gagné très bien ma vie entre 2009 et 2011, quoi.
Ça veut dire combien par prime, par exemple, de Secret Story?
Non, mais c'était un forfait, Secret Story. C'était autour de, je sais pas, ça oscillait entre 400 000 et 600 000, 650 000 euros par saison.
Des tarifs d'un autre temps.
Non, mais c'est pareil aujourd'hui. Hein,
c'est le même tarif aujourd'hui,
sur The Voice, le jury qui fait 20 primes, il prend 600 000 euros, hein. Nico, s'il prend 27 500 euros par prime, il en fait 20, faites le calcul, c'est pareil. Hein.
C'est précis, vous avez sa fiche de paie.
Non, mais bon, sur TF1, on sait qu'un prime, c'est entre 20 000 et 30 000 euros hors taxe. C'est un secret professionnel. Sur un jeu quotidien, ça va entre 8 000 et 15 000 euros l'émission, hors taxe. Mais en plus, moi, j'ai fait de la connerie à l'époque, j'ai dit comment je gagnais tout. J'aurais jamais dû dire ça, parce que c'est on vous le reproche. En Amérique, quand vous dites vous êtes riche, on vous dit bravo, et quand en France vous dites vous êtes riche, on vous dit qui vous avez volé. Donc, vous méritez pas, ou c'est compliqué en France. C'est d'ailleurs, vous avez bien vu, les grosses stars de télévision, elles vous parlent. C'est Roland Twingo, elles ont leur bateau, c'est un Zodiac, elles vont en vacances avec Nocle Zout, ils nous prennent vraiment pour des bananes. Cette hypocrisie-là, en revanche, commence à me gonfler, ça, je vous le dis, moi. Non, mais ça va, arrêtez de nous faire croire. Non, mais les mecs, les donneurs de leçons, qui gagnent, alors là, entre 3 et 5 millions d'euros par an.
Qui ?
Non, je vous laisse lancer vos propos. Mais arrêtez. Mais comme certains ont la carte, d'autres n'ont pas, alors on vient faire chier certains et pas d'autres. Menez l'enquête. Et vous verrez que 1 ou 2 millions d'euros par an, c'est énormément d'argent, mais aujourd'hui, certains gagnent beaucoup plus.
Et puis vous en êtes revenu vous-même, vous n'êtes plus à ce niveau-là.
C'est-à-dire que je les ai perdus surtout.
C'est ça, parce que vous avez connu des très hauts, mais aussi des très bas. 2012, c'est une escroquerie qui 2000... vous laisse quasiment sur la paille.
Ah bah, pas quasiment sur la paille, c'est... Ah, puis alors quand ça dévisse à une vitesse.
Mais vraiment, vous avez tout perdu à ce moment-là?
Ah, tout, mais je vous le dis, ça a duré quelques temps, quelques semaines, mais vous avez la carte bleue, vous sortez pas 20 balles. Et c'est pas des blagues, je dis pas ça, je me plains pas, je suis très heureux, ça m'a de leçon. Quand votre banque, elle vous dit, c'est fini, votre carte, elle ne fonctionne plus. Voilà, terminé, dégagé.
Même quand on a eu une jolie cagnotte comme celle que l'on évoquait tout à l'heure?
Moi, ma cagnotte, je ne suis pas l'écureuil, donc je n'ai pas été très prévoyant, mais je pensais l'avoir été en achetant différentes choses, mais après, quand ça dévisse, on vous prend la maison, on vous prend les bagnoles, on vous prend les meubles, on vous prend...
Ça allait jusque-là, jusqu'à des saisies?
Bien sûr, bah oui, ça c'est... J'adore les huissiers. Non mais c'est vrai, il y a une époque, je retenais le frigo d'une main et la télé de l'autre, hein.
Et puis c'est difficile de le dire, parce que évidemment tout le monde s'imagine.
Alors oui, c'est
du fait de vos déclarations précédentes, ouais, que vous êtes sur un tas de
billets. Comme j'ai fait le mariole au préalable, d'abord il y a ceux qui disent c'est bien fait pour sa gueule, bon, ça c'est normal, c'est de bonne guerre. Et puis surtout, tout le monde pense que j'ai caché des lingots d'or sous mes oreillers. C'est plutôt des lingots de plomb que j'ai mis sur mes oreillers, plutôt que des lingots d'or. Donc non, c'était après ça vous forme. Après je suis très heureux, tout va bien. Voilà.
Peut-être que ça vous a appris la méfiance, cette escroquerie justement. Maintenant on ne peut plus vous la faire à l'envers, pour reprendre cette expression si bien expliquée précisément par un candidat. Souvenez-vous de Secret Story.
Tu me la feras pas à l'envers, Yoann. Parce que moi si tu me la fais à l'envers, je te la fais encore plus à l'envers. Et limite, je vais te la remettre à l'endroit, tu vois.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.
RTL. Merci beaucoup. On est encore ensemble pendant une demi-heure pour cette spéciale jeu dans les collecteurs dont on fait la télé. Et on est toujours avec Benjamin Castaldi.
Encore un invité que vous aviez vexé, Eric, au moment de jouer à Archive ou Archifo.
Qu'est-ce que j'avais fait encore?
Ben oui, vous lui aviez fait le même coup qu'à Muriel Robin.
Ah.
Vous lui aviez expliqué les règles comme s'il avait le QI d'une poule du loft.
J'aime bien être didactique, voilà.
Archive ou Archifo?
Vous vous souvenez que vous avez animé sur M6 une émission qui s'appelait Mémoire le Grand Est?
Ah oui, j'ai adoré.
Eh bien cette fois...
C'était pas QI le Grand Est plutôt?
Ah, il y a eu mémoire aussi. Vous voyez, vous avez des problèmes de mémoire. Ce qui nous arrange avec la séquence qui vient, parce que justement, votre mémoire, on va la tester.
Ouais.
On va affirmer des choses à votre sujet à la télévision. Si vous pensez que ce que l'on affirme est vrai, vous nous dites archive. Sinon, vous nous dites archifo.
D'accord.
J'ai compris.
Alors,
je
vous êtes
débile.
Non. Non mais
on a eu des problèmes parfois.
On a déjà eu des problèmes.
Ça va, c'est pas non plus. Okay. Ça va, c'est pas.
Oui, enfin, que vous dites, on vous dira.
Allez-y.
Si je vous dis que nous avons retrouvé des images télé dans lesquelles vous jouez au foot avec Zidane, archive ou archifo?
Je crois que c'est archive, mais je crois que je lui ai pas poignardé la cuisse.
C'est ça. Vous n'avez pas joué au foot avec lui. En revanche, vous l'avez poignardé lors d'une émission de télé.
Racontez-nous ça.
Quelle horreur. Quelle horreur. C'était.
Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une soirée hélas sur TF1.
Alors, je suis avec mon camarade Jean-Pierre Foucault. Et on doit faire une séquence où on doit faire croire à Zidane que Jean-Pierre Foucault est un lanceur de couteaux. Et il se met donc en face de Zidane et il prend les couteaux et on bande les yeux de Zidane. Et en fait, quand il fait hey! Il fait croire qu'il lance le couteau. Et moi, je suis à côté de Zidane et avec un couteau, je crève les ballons.
Oui.
Je plante les couteaux.
Oula.
Sauf que je vais planter la cuisse.
C'est pas possible.
Mais, et je lui plante la cuisse, et en plus, sur le moment, je dis non, mais ça va. Et en fait, il a eu 5-6 points de suture. C'est-à-dire que j'ai niqué la jambe d'un mec qui pesait je sais pas combien de millions d'euros à l'époque.
Oui, parce que les jambes, ça lui sert un peu.
Parce que les jambes, c'est utile pour un footballeur.
Il vous a pas mis de coup de boule en retour?
Non, mais Mané, vraiment, tu exagères.
Allez, dernier archive ou archifo.
À cause de vous, votre père, Jean-Pierre Castaldi, a piqué une colère noire à la télé. Archive ou archifo?
Alors, écoutez, mon père piquant une colère,
ça c'est rare.
Mon père piquant une colère, j'ai envie de dire, c'est forcément une archive.
C'est un peu courant. Oui, en effet.
Oui.
Vous l'aviez piégé pour une caméra cachée diffusée sur C8 en lui faisant croire que vous aviez été victime d'une erreur médicale.
Ah oui, t'es pas content.
Ouais, on rappelle le scénario, c'est une opération des sinus qui tourne mal, vous avez le visage gonflé, et ça gonfle aussi Jean-Pierre Castaldi qui va légèrement recadrer le faux chirurgien.
Ouais. Monsieur, ce sont des informations confidentielles, vous n'avez pas le droit de le dire. Je suis désolé.
Je vais faire quoi qu'en confidence? Je vais faire quoi?
Monsieur, ça fait 8 ans que je travaille.
Ça n'a rien à foutre de ton mec, sors d'ici.
C'est normal.
Tu vas dégager la gueule de ton mec, tu vas sortir. Sortir d'ici. Vous allez chercher un responsable et vous revenez pas avec votre banana ridicule. Prenez le chef de clinique et ne revenez pas sans lui.
Il a eu chaud, hein, ce comédien, on va dire. Hein. Il aurait pu finir le visage gonflé.
Ouais, mon père aussi, mon père, il est très, très sanguin. Mais vous savez, quand Misraël l'a piégé.
Si on n'est pas passé loin de la claque.
Si mon père, il a 5 ans de moins ou 6 ans de moins, je pense que Misraël, il le fracasse.
Mais alors, pourquoi vous lui faites ça? Vous savez très bien qu'il démarre au quart de tour. Vous êtes sadique.
D'autant que c'était la deuxième fois.
Ouais.
Parce qu'on l'avait déjà piégé précédemment avec.
Ça marche à tous les coups.
Avec Delormeau, où là, je ne pensais pas. On avait été tellement loin. Je devais venir à la maison pour dire que j'allais quitter ma femme Aurore. Pour faire mon coming out avec Mathieu Delormeau. Et à l'époque, je m'étais teint les cheveux en blond, donc bon, j'avais une apparence assez différente, quoi. Et je me suis dit, mais mon père ne gobera jamais cette histoire. Et en fait, il a marché, il était tellement malheureux. Pour ma femme,
ouais.
Tu te rends compte, tu viens de l'épouser,
ouais.
Et maintenant, tu m'annonces que tu
pas
te barres. Et avec un mec en plus. Et alors, pour vous donner un scoop, c'est qu'en fait, il a fait un malaise.
À ce point-là?
Ah oui, non, mais on a arrêté la caméra cachée, on l'a terminé après. Donc les 5 dernières minutes sont jouées parce que mais il a fait un malaise, c'est-à-dire que il est
puis il était vous avez failli tuer votre père en fait, vous rendez compte?
Et moi je crois quand il me fait le malaise, je crois qu'en fait que c'est l'arroseur arrosé qu'il est en train de me faire croire qu'il
avec une caméra cachée donc vous êtes la victime.
Ah ouais. Moi je dis c'est bon papa, c'est bon, allez mais je dis à la régie, je dis dites-moi, il est en train de crever ou c'est prévu dans le scénario? Mais il faut que je fasse gaffe, il a quand même 77 ans papy là.
Jean-Pierre Castaldi, il vous en veut toujours de lui avoir conseillé de participer à Première Compagnie?
Il m'en a jamais voulu. Moi je pense que je ne mesurais pas à quel point il allait le payer cher.
Ah, oui. Ce qui s'est passé derrière, c'est qu'on lui a proposé beaucoup moins de rôles.
Pas beaucoup moins. Il a disparu des radars.
C'est-à-dire le métier lui a tourné le dos.
Ah bien sûr. Il a ramé, il rame encore. Enfin maintenant il a la chance de jouer au théâtre, parce que pour l'instant c'est un peu compliqué. Mais oui, ça, il a payé très 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 cher.
Et pour ça, vous êtes pas fait engueuler. Là, il est pas monté dans les tours.
Non, parce que il était content de le faire. C'était très bien payé. Voilà.
Ça valait le coup d'accepter ce cachet. Ça compensait. compensait ?
Non, bah non, ça compensait pas tout. Ça compensait pas tout.
Jusqu'à 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.
Plus.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.
Et une fois n'est pas coutume d'en refaire la télé, on va refaire la radio avec l'une des plus grandes voix d'RTL pendant 35 ans. Je veux bien sûr parler de Fabrice.
Il avait accepté de reprendre le micro pour venir célébrer avec nous la fête de la radio. On en avait profité pour retracer évidemment son incroyable parcours.
Jusqu'à 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.
Le droit mène à tout, même au droit d'être auteur, avant les droits d'auteur. C'est vrai si en même temps que ses études de droit, on poursuit des études très sérieuses au conservatoire. François Fabrice, jeune chanteur, compositeur, parolier, accorde toutes ses activités avec bonheur et nous présente aujourd'hui son premier disque.
Oui, je me souviens de toi.
Alors ça, je l'ignorais complètement avant de préparer cette émission. Je vais être très honnête, Fabrice, je ne savais pas que vous aviez commencé comme chanteur.
Est-ce
que
moi non.
C'est ça. Ça a été un grand succès. Vous avez vendu combien de disques ?
Ça n'a pas été un succès, ça a été un remarquable bide. Mais un bide élégant, un bide sympathique, voilà.
Bon, oui, un bide qui vous permet quand même de faire Discorama de Denise Glaser. Vous aviez 22 ans, c'est votre première télé, il me semble. François Fabrice, parce que vous liez un nom artiste à la bébé, c'est ça ? Doublé.
Exactement. Ouais. Parce que FF, ça faisait très chic. Alors, François Fabrice, ça va aller. Parce que je ne voulais pas porter mon vrai nom, car toute ma famille était dans le spectacle.
Ah, vous ne vouliez pas les compromettre ?
Oui. Je n'avais pas pensé à ce terme, mais il me paraît assez
juste. Vous en remerciez.
Alors, je ne voulais pas les compromettre. Et non, mais je voulais surtout pas qu'on dise c'est un fils à papa, c'est le fils d'un tel ou d'un tel. François Fabrice, c'était anonyme, c'était très bien.
Alors après la musique, Fabrice, la radio, carrière incroyable.
Oui, vous allez devenir, Fabrice, l'une des voix les plus emblématiques d'RTL, avec de nombreuses émissions qui ont marqué l'histoire de notre station. La case Trésor, Casino Parade, Le C'est quoi donc, ou encore les jeux de Fabrice en duo avec Sophie Garel.
Sophie Garel, que vous appeliez Mémène, parce que tout le monde avait un surnom dans votre équipe.
Oui.
Vous, en toute humilité, c'était donc...
L'empereur.
Voilà, normal.
Que l'empereur, j'avais pris un petit rôle.
Bah oui,
Le
public et les auditeurs, d'ailleurs, devaient à chaque fois, à chaque début d'émission, dire « Vive l'empereur !»
Vive l'empereur.
En toute humilité, là aussi.
Ce qui était particulièrement jouissif dans les municipalités de gauche, voire communistes, de voir tout public hurler « Vive l'empereur !» devant les édiles du coin qui faisaient une drôle de tête. Et moi, ça me plaisait particulièrement.
Sophie Garel, comme d'autres, n'en reviennent toujours pas, Fabrice, de vos capacités d'improvisation qui vous permettaient de faire illusion face à vos invités, parce qu'il paraît que vous découvriez leur actualité environ 3 minutes avant l'antenne.
Oui, c'est à peu près ça.
Parfois, c'était moins.
Bah oui, en fait, je n'étais pas passionné par l'actualité du showbiz, faut bien le dire. Il y a des choses que je savais, parce que je lisais quand même un peu les journaux, j'entendais des journaux d'information, etc. Mais c'est vrai que je n'y passais pas un temps considérable.
Vous arriviez les mains dans les poches, quoi.
Oui, et encore une fois, je ne m'en vante pas, je ne suis pas un exemple pour les jeunes, parce que c'était pas bien du tout. Mais c'est vrai que moi j'improvisais, donc je comptais sur... l'improvisation, j'arrivais, c'est qui la vedette aujourd'hui ? Qui est la vedette ? C'est un tel. Bon, bonjour à tous, voici un tel. Bon. Et après, je me débrouillais.
Et pareil, vous leur disiez aussi à chaque fois, alors quoi de neuf ?
Oui, parce que comme ça, j'étais mal, tranquille ça. Pendant un moment. Alors quoi de neuf ? Et, alors, ils nous parlaient de leur actualité.
Ils faisaient le boulot pour vous, quand même.
Ils faisaient le boulot pour moi, moi j'écoutais, bon, j'étais très content.
Fabrice, vous n'aviez pas envie de vous tuer à la tâche, si je comprends bien.
Non, et pourtant, il y a eu des moments dans ma carrière où j'ai énormément travaillé. Je suis probablement le recordman du monde du nombre d'émissions de radio et de télévision enregistrées par mois. Puisque à un certain moment, j'en faisais 100 par mois.
100 émissions par mois, radio, télé confondues.
100 émissions par mois.
Ah oui, donc vous n'aviez pas le temps de préparer, c'est normal.
Mais j'avais le temps de rien du tout.
Oui,
c'est-à-dire qu'en télévision, j'étais au semi-comateux. J'arrivais sur un plateau, je me disais d'abord, où suis-je? Sur quelle chaîne?
Et qui sont ces gens?
Et c'était épouvantable. Mon épouse peut en témoigner. Je dormais dans la voiture parce qu'on partait en province en plus, etc. Je savais pas. Je parlais de choses, de films que je n'avais pas vus. Enfin, c'était ça. Ça, je le regrette parce que c'était déplorable. Hein, je travaillais sans filet. Je risquais de me casser la figure. Je me la suis pas trop cassée, mais c'était limite. Hein.
Fabrice, homme de radio, mais aussi homme de télévision dès la fin des années 70. Vous commencez sur Télé Luxembourg, puis Antenne 2, où vous allez animer dans le cadre de Récréa 2, un jeu qui est devenu une Madeleine de Proust pour toute une génération. Hein. C'était les 4 amis.
Ah oui, carrément.
Et puis 1987, c'est le début, Fabrice, de votre plus grande aventure télévisuelle, on va dire ça comme ça, portée par un générique qui hante encore tous les mariages.
La queue-le-le de Bézu,
le titre préféré de Jade, qu'elle écoute au moins une fois par semaine au bureau.
Vous aviez dit que vous ne le diriez pas.
Bah oui, j'ai
générique de la classe que vous allez animer tous les soirs pendant 7 ans.
7 ans.
Sur FR3. Une classe bien dissipée, puisqu'elle était composée de jeunes humoristes, parmi lesquels des futures grandes stars.
Il est au Tintamarre à 21h30, tiens. Palmade.
Bon, alors, je sais pas ce qui me prend, j'ai envie de vous faire plaisir.
Ah.
Je vous amène au cinéma.
J'appelle Muriel Robin, Chantal Latsou. Oh.
Et tout de suite, une première candidate. Quel est votre nom?
Simone Mazzocato.
Laurent Ruquier. Ouais. Bah, allez-y, mon petit Ruquier, alors.
Quelques informations. Héritage de Salvador Dali. Amanda Lear voudrait récupérer la mousse à raser et le rameur.
Je suis Michel Larocque et c'est moi qui, à partir d'aujourd'hui, vais m'occuper de la rubrique courrier.
La classe s'était produite par Guy Lux. Il paraît qu'il n'était pas toujours commode avec ces jeunes recrues de l'humour. Certains nous l'ont dit à ce micro. C'est vrai qu'il piquait des gueulantes dans la coulisse.
Ah oui, 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 il poussait des hurlements. Oui, oui, Guy Lux était colérique. Mais c'était son caractère. Il n'était pas méchant. Mais bon, il était assez fidèle en amitié. Et puis, il se moquait de lui magnifiquement. Si vous voulez que je vous imite en 30 secondes ce qu'il faisait avec les directeurs de télévision. Et alors, Coco, alors voilà, on va faire une émission de télévision. Ça va être formidable, ce sera un jeu. Ah bon, disait le directeur de la... Ah oui, ce sera un jeu. Et pendant ce temps-là, il cherchait ce que ça allait bien pouvoir être, parce qu'il n'avait absolument aucune idée de ce qu'il allait raconter.
Bon vendeur, quoi.
Et alors, il y a un éléphant, et cet éléphant, il est sur un tabouret.
Oui.
Et l'éléphant, il a une balle.
Ah oui.
Et alors, l'éléphant, il va jeter la balle, et le concurrent, il va essayer de la rattraper. Et il développait n'importe quoi comme ça. Mais il avait un tel bagou que l'émission, elle était vendue et qu'il la produisait, etc. Faut quand même le faire.
C'est un talent. Aujourd'hui, Fabrice, vous l'avez vu, tout le monde parle de la classe comme d'une émission culte. Ça doit vous faire un peu sourire parce qu'à l'époque, elle n'avait pas forcément bonne presse. Hein.
Oh non, elle avait très mauvaise presse. Il y avait des tas de critiques de télévision qui n'aimaient pas du tout cette émission.
On lui reprochait quoi? De ne pas être assez chic?
Oui, d'être populaire. Vous savez, il y a toute une caste de journalistes ou de gens du métier, etc. Ce qu'on appelle, entre guillemets, l'intelligentsia, on se demande bien pourquoi. Et ces gens-là haïssent ce qui est populaire. Ce qui est populaire, ça les dégoûte profondément. Bon. Donc, on reprochait à l'émission qui n'était pas toujours extraordinaire, c'est vrai, il y avait des hauts et des bas. C'est la loi du genre.
C'est une quotidienne,
Une quotidienne, ça peut pas toujours être au sommet. Et on n'a pas que des textes signés Palmade, c'est évident. Et maintenant, c'est, comme vous l'avez dit, une émission culte. Ce que je trouve aussi tout à fait extraordinaire, mais bon, c'est comme ça, ça a fait du chemin.
Ça vous atteignait pas, ces critiques, à l'époque?
Aucune critique ne m'atteignait. Je m'en fichais éperdument, parce que... moi, ce qui m'a porté, c'était de plaire au public et d'avoir du succès. C'est vrai, ne plaire à personne, sauf au public, je m'en contente largement.
Jusqu'à 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.
Swimming in-
Ah, c'est gentil. Non, ça ira.
On le fait ou pas?
Allez.
Locked out of heaven.
Voilà, si quelqu'un a compris quelque chose, qui n'hésite pas à nous appeler RTL. En revanche, on peut donner le nom de l'artiste sans trop bafouiller.
C'est Bruno Mars, bien
ça,
sûr.
Ça, c'était beaucoup plus simple. Bah, oui. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça donne envie de danser. Mm. Les collecteurs d'Orphée la télé reviennent juste après ça.
Jusqu'à 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.
Est-ce que vous pensez, Jade, que notre duo sur RTL durera aussi longtemps que celui que formaient Fabrice et Sophie Garel? 20 ans pour eux.
Et pas de malheur, ça veut dire qu'il reste encore 14 ans.
Mais oui, vous verrez, ce sera bien. Je donnerai votre compote au goûter.
Je
tout
sens
ça.
Pas bien.
Ce sera sympa. Fabrice, Sophie Garel, duo de légende sur RTL pendant de nombreuses années. Et pourtant, tout aurait pu s'arrêter net pour eux ce jour où ils ont bien failli se faire virer. Mmh. On va vous dire pourquoi.
Voici le jeu du Archive ou Archifaux, mais spécial radio avec Fabrice.
Archive ou
Archifaux, spécial radio aujourd'hui pour fêter ses 100 ans. Fabrice, on va vous attribuer la paternité de grands moments de radio. Si vous pensez que c'est vraiment vous qui avez fait ça, vous nous dites Archive. Si ça vous rappelle rien, vous nous dites Archifaux.
On y va?
Oui, c'est pas du béton ce que je vais vous dire.
Vous avez failli vous faire virer d'RTL après un terrible fou rire pendant une pub en direct pour une célèbre marque de produits cosmétiques. Archive ou Archifaux?
Alors c'est Archive.
C'était dans les années 60, hein. Je crois qu'il y avait eu dégustation de produits vinicoles quelques minutes avant que vous fassiez cette pub.
Ça n'est pas impossible. Hein. Ça arrivait effectivement. Oui, on a failli se faire virer, Sophie et moi, c'était avec Sophie Garel. Et il faut s'imaginer que ce qu'on a fait était écouté par le PDG de cette marque, entouré de tous ses cadres.
Et voici ce qu'il a entendu, Fabrice. Oui.
Demain, Yves Rocher donnera une nouvelle dimension à ses propos de la Gacilly.
Qu'est-ce que tu racontes?
Tous mes auditeurs ont très bien suivi ma pensée.
Mais ils ont de la chance, dis donc. Parce que...
Demain, Yves Rocher donnera une nouvelle dimension.
Eh ben dites-donc, on n'est pas encore sorti de l'affaire, là. Demain, Yves Rocher donnera une nouvelle dimension à ses propos de la Gacilly. Donc, là, je ne peux pas. Bon, je vais m'en saisir. 3, 4. Écoutez, et puis n'écoutez rien, moi j'en ai assez, débrouille-toi.
Et donc, là, faut imaginer la direction qui écoute ça.
C'est effroyable.
Bah oui.
C'était effroyable. Et nous étions en tort. Nous étions très jeunes, on ne se rendait pas bien compte. Mais Jean Farran, donc le patron de RTL, nous a dit, écoutez, normalement, je devrais ou vous virer ou au moins vous mettre une mise à pied, mais j'ai tellement ri que vous n'aurez aucune punition. Mais je vous conseille de ne pas refaire ce genre de choses. Et nous nous sommes tenus à carreau.
Autre archive ou archifaux, Fabrice, un jour, lors d'une valise RTL, vous êtes tombé sur un auditeur qui était aux toilettes et qui vous a demandé de bien vouloir le rappeler 5 minutes plus tard, parce qu'il y avait mieux à faire. Archive ou archifaux, est-ce que c'était vous, ça?
Non, je dirais archifaux.
Exactement, archifaux, c'est ouais. Pas vous. En revanche, il y a bien eu une histoire de toilette pendant une valise.
Oui, mais c'était avec Michel Drucker. À l'époque, il partait directement à la rencontre des gens un peu partout en France pour leur faire gagner la valise. Et ce jour-là, il arrive donc chez un monsieur qui était au petit coin.
Au fond d'une petite cour, au centre de Caen, pas loin de la gare, petite maisonnette au fond, je l'avais frappé. Bonjour monsieur. Oh, excusez-moi. Excusez-moi, je n'avais pas vu que vous étiez dans les toilettes, excusez-moi. Est-ce que, ben non, vous pouvez pas me donner le montant de la valise parce que vous avez autre chose à faire. Vous pouvez me dire quel est le montant de la valise RTL?
J'en sais rien, moi.
Ouais, je regrette. Il y avait 10 973 francs. Si vous aviez eu la radio à l'intérieur, vous auriez gagné.
Ah bah oui, il fallait aller aux toilettes avec le poste de radio.
Oui,
bah,
oui,
c'est ballot, comme dirait quelqu'un qu'on connaît bien. Hein. Michel Drucker, il n'a que 2 ans de moins que vous, Fabrice. Lui, il est toujours à la télé. Vous ne vous seriez pas vu continuer aussi longtemps que lui, ce métier?
Ah non. Non, non, non. Moi, j'ai pensé que arrivé à un certain âge, c'est-à-dire à 60 ans, j'avais fait mon métier, j'étais très heureux, tout se passait bien. On arrivait à l'an 2000, je pensais que c'était des bonnes dates et des bons moments, 60 ans, l'an 2000, tout ça, pour tourner la page et faire autre chose.
Mais est-ce que depuis, ça vous a manqué? Ça fait 20 ans, est-ce que parfois, le virus revient et vous auriez envie de reprendre du service?
Non, je n'aurais pas envie de refaire une émission quotidienne, par exemple. Mais j'adore participer à des émissions. Ce qui me manque le plus depuis 20 ans, c'est le public. Ça me manque beaucoup. C'est-à-dire qu'on avait des rapports quand même très étroits. Je leur racontais tout le temps ma vie.
Vous faisiez partie de la famille des auditeurs
c'était
d'RTL.
C'était un peu une famille, c'était la famille RTL. Donc aujourd'hui, quand je fais certaines choses, je vois certaines choses, des films qui m'enthousiasment, etc., eh bien, j'aimerais le leur dire. Et puis, ils ne sont plus là, et moi non plus. C'est un peu dommage, ça.
Donc revenir, pourquoi pas, mais comme ça, sporadiquement, de temps à autre.
Oui, parce que bon, j'ai un âge, dites donc, je vais avoir 80 ans aux cerises, mon cher camarade.
Au mois d'août prochain, vous ne les faites pas, cher Fabrice.
Oui, mais je ne les fais peut-être pas, mais je les ai quand même. Alors, une émission quotidienne, je crois que je ne tiendrai pas le coup. Hein.
Tant pis pour nous.
Non, c'est gentil.
Allez, dernier test de mémoire.
Fabrice, vous avez un jour vécu un très grand moment de solitude alors que vous deviez annoncer en direct la mort d'un chanteur très populaire. Archive ou archifaux ?
Franchement, je ne sais plus.
Ouais. On va vous rassurer, c'est faux.
Oui, c'est faux.
C'est faux. Bon.
C'est faux, c'était pas vous, c'était un journaliste de la station France Bleu. Écoutez.
Carlos s'est éteint ce matin, 64 ans, des suites d'un cancer. On lui souhaite une bonne dernière. Bon courage.
Bon courage.
Ouais. Ouais. Oui, alors, bon courage pour la suite.
L'essentiel a été fait, a priori.
C'est atroce.
Mais une phrase pareille, quand vous l'avez commencé, vous pouvez pas vous en sortir. Attends, c'est fichu.
C'est difficile.
Vous avez vécu des moments embarrassants comme ça.
C'est notre métier, quand même.
Et voilà, Jade, c'est fini pour ces collecteurs de l'été. Dès samedi prochain, on revient pour une 6e saison d'On refait la télé avec encore plus de confidences, de casseroles et d'archives collecteurs.
Mais oui, avec joie. Rendez-vous le 28 août à 11h30. Ça nous laisse tout juste le temps d'aller choisir votre nouveau cartable, Eric.
Non, je voulais le Pocahontas, mais comme vous l'avez déjà pris, bon, tant pis.
Oui, est à moi.
C'est honteux. On vous souhaite une belle rentrée sur RTL. Vous, c'est lundi matin avec Laurent Gérard.
Oui, ça y est, je me prépare à rire.
Merci, ça veut dire que vous avez tiré la tronche avec moi. Ah, mais non, ça commence bien cette année, hein, je vous jure. Ça commence lundi, la grille de rentrée d'RTL. Et pour notre part, c'est samedi prochain, 11h30.
Exactement.
On vous souhaite un très bon week-end avec RTL. Ciao, ciao.
Salut.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Avec Jade et Eric Dupont.